Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Le 9 décembre 1905, la France a marqué son histoire avec la promulgation de la loi de séparation des Églises et de l'État. Cette loi a été adoptée par la Chambre des députés le 3 juillet 1905, par le Sénat le 6 décembre 1905 et a été promulguée le 9 décembre 1905. Elle a été présentée par Aristide Briand et a été adoptée par une coalition de députés incluant des catholiques et des anticléricaux. Cette loi a été un acte fondateur du principe de laïcité en France, garantissant la liberté de conscience et la liberté religieuse, tout en mettant fin au régime du concordat. Elle a également été un acte de sécularisation de la République, qui ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Voici un extrait d'un film passé sur France Télévisions dans lequel Aristide Briand est joué par Pierre Arditi.
Les difficultés avec Rome ne se sont pas aplanies. D'ailleurs, il serait parfaitement puéril d'espérer qu'elles puissent être jamais aplanies car elles tiennent à des causes profondes sur lesquelles pas plus le Saint-Siège que la République ne peuvent transiger. Nous nous trouvons devant une situation inextricable. Toutes les causes de conflit persistent. Pour la République, les principaux avantages du concordat, je devrais dire tout le concordat, sont dans les articles organiques. Or, ces articles, Rome ne les a jamais reconnus. Toujours, à toutes les époques, elle a déclaré les tenir pour nuls et non avenus. D'ailleurs, la doctrine fondamentale de l'Église s'oppose formellement à ce qu'elle ne les reconnaisse jamais. C'est la tare originelle de cette convention interlope, née dans la contrainte et dans la ruse. À la suite de violations successives, et pour ainsi dire systématiques du concordat, les relations avec Rome ont dû être rompues. Vous avez approuvé cette rupture.
Oui.
Le mois dernier, vous avez reconnu que la situation appelait une solution rapide et que la seule qui fut à la fois acceptable et conforme à la dignité et aux intérêts de la République était la séparation des Églises et de l'État. Il m'avait semblé qu'un rendez-vous général avait été pris, d'accord avec toutes les fractions de la Chambre, pour discuter non plus sur une misérable question de procédure, mais sur le fond même de la réforme. C'est à l'heure où la Chambre s'apprête à entreprendre la tâche qu'elle s'est assignée qu'on lui propose d'ajourner toute solution. Et bien, dans ce cas-là, que se passera-t-il, messieurs ? Ben, c'est très simple. Si vous aviez l'imprudence d'accorder cet ajournement, le Saint-Siège ne manquerait pas, il aurait raison, d'interpréter votre vote comme le signe d'une grande inquiétude, comme la démonstration de votre impuissance, comme la preuve éclatante que vous redoutez de prendre les responsabilités de l'heure.
Il croirait simplement que vous êtes respectueux du suffrage universel.
Monsieur le comte de Baudry-Dasson, je vous invite à faire silence. Le rapporteur seul a la parole.
De Saint-Siège ? Son attitude n'en serait pas améliorée, ni ses prétentions affaiblies. Mais ceci n'est rien. Rien à côté de ce qui pourrait se passer dans le pays. Les ennemis de la République auraient beau jeu dans cette partie-là. Le champ serait librement ouvert devant eux à tous les mensonges, à toutes les calomnies contre ce régime. Sur cette question de la séparation que vous auriez posée, mais sans la résoudre, leur serait loisible de vous prêter les pires desseins, les plus éloignés de vos intentions. Vous les verriez parcourir des campagnes, annonçant la fermeture des églises.
Avec raison.
C'est notre devoir de montrer la vérité aux électeurs.
Veuillez faire silence, messieurs. Si vous ne pouvez pas entendre exprimer des opinions qui ne sont pas les vôtres, la discussion ne peut pas continuer.
Les ennemis de la République, ben vous les verriez parcourir les campagnes annonçant la fermeture des églises, la proscription des prêtres, la persécution des fidèles et les atteintes les plus graves à la liberté de conscience. Et alors vous, messieurs, vous, comment pourriez-vous vous défendre contre ces attaques si grossières, si invraisemblables fussent-elles ? Ben vous ne le pourriez pas. Vous ne le pourriez pas, car quand on a l'imprudence de s'exposer à être jugé sur des intentions, on peut craindre toutes les erreurs, toutes les injustices. Alors, messieurs, je vous le demande, quel est le républicain qui consentirait de gaieté de cœur à jeter la République dans une aventure aussi folle ?
Faites un référendum sur cette question. Vous verrez le résultat.
Vraiment, messieurs, il est inadmissible que l'on ne puisse pas continuer, dans le calme et le silence, une discussion dans les termes où celle-ci est menée.
Si nous apportions à l'étude et au vote d'un projet de séparation la même passion et la même intolérance que vous mettez dans cette discussion, nous vous ferions une bien mauvaise loi, contre laquelle vous auriez raison de protester. Mais je n'insiste plus, je m'excuse auprès de la Chambre d'en avoir tant dit pour démontrer à quel point est inacceptable cette motion d'ajournement. Enfin, cette discussion aura tout de même valu à l'Église un petit délai, et je crois que dans les circonstances pressantes où nous sommes, il y a tout ce que nous pourrons faire pour elle.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
En 1905, la musique a connu des événements marquants qui ont façonné l'avenir de la musique classique et contemporaine. Parmi les faits marquants, on peut citer la création de La Mer par Claude Debussy, qui a été un moment clé dans l'histoire de la musique impressionniste. La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre, est une œuvre symphonique du compositeur français Claude Debussy, créée le 15 octobre 1905 à Paris par l'orchestre L'Amoureux sous la direction de Camille Chevillard. Cette œuvre est contemporaine du poème symphonique éponyme de Mikaloïus Constantinas Curionis, composé entre 1903 et 1907. Debussy a commencé à composer la mer alors qu'il séjournait en Bourgogne et il a continué à travailler sur l'œuvre à Jersey et à Dieppe. La première représentation de la mer a eu lieu le 15 octobre 1905 au concert L'Amoureux et bien que l'œuvre ait été reçue avec des débats passionnés, elle est devenue au fil du temps une des compositions orchestrales de Debussy les plus jouées.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Aristide Briand, né le 28 mars 1862 à Nantes, Loire-Inférieure, est mort le 7 mars 1932 à Paris, dans le département de la Seine, est un avocat et un homme politique français. Député de la Loire et de Loire-Inférieure, initiateur et rapporteur de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, codifiant la laïcité en France, il est 11 fois président du Conseil et 26 fois ministre sous la Troisième République. Il joue un rôle essentiel dans les relations internationales après la Première Guerre mondiale. En 1926, il reçoit le prix Nobel de la paix, conjointement avec Gustav Stresemann, pour son action comme ministre des Affaires étrangères en faveur de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, accord de Locarno en 1925. En 1928, poursuivant son rêve de paix par la sécurité collective, dont l'axe serait la Société des Nations, il signe avec l'Américain Frank Bilix Kellogg le pacte Briand-Kellogg visant à mettre la guerre hors la loi. Cependant, son œuvre diplomatique s'écroule dès le début des années 30, qui sont marquées par la crise économique de 1929, la montée du nazisme et du nationalisme japonais préfigurant la Seconde Guerre mondiale. Après le baccalauréat, il entreprend des études de droit et devient clerc de notaire en revenant à Saint-Nazaire. En 1886, il s'inscrit comme avocat stagiaire au barreau de cette ville portuaire. Il rencontre Fernand Pelloutier, figure de l'anarcho-syndicalisme et secrétaire de la Fédération des Bourses du Travail. Il décide alors de s'engager en politique et se lie d'amitié avec Eugène Couronnet, ancien ouvrier typographe, fondateur et directeur du journal La Démocratie de l'Ouest, qui lui a demandé son premier véritable article, daté du 17 août 1884. Devenu directeur politique de l'Ouest républicain, il s'engage aux côtés des radicaux socialistes. Il est élu conseiller municipal de Saint-Nazaire le 6 mai 1888 et démissionne le 22 février 1889. Il fait ensuite élire des candidats ouvriers au sein du premier conseil municipal socialiste de la ville. D'abord proche du syndicalisme révolutionnaire et grand défenseur de l'idée de la grève générale, il devient député socialiste de Saint-Étienne en 1902 à la suite de Benoît Auriol. Il est alors très proche de Jean Jaurès. En 1904, il quitte son poste de secrétaire général du Parti socialiste français. Il joue un rôle important dans le processus de sécularisation et de laïcisation en tant que rapporteur de la loi de séparation des Églises et de l'État. Son pragmatisme et son talent de négociateur ont finalement permis une application mesurée et un accord de fait entre la République laïque et une partie du clergé français, malgré l'opposition virulente du Vatican. En mars 1906, il se voit confier le ministère de l'Instruction publique dans le gouvernement du radical Sarrien contre l'avis de Jean Jaurès qui redoute que Briand suive la même évolution que Millerand au contact du pouvoir. Plus encore que celle de Millerand dans le gouvernement Waldeck-Rousseau en 1899, la nomination de Briand est très mal perçue dans les rangs de la SFIO où l'on parle de trahison. Il fréquente à cette époque le salon de Madame Armand de Caillavé, égérie d'Anatole France. C'est Briand qui exige la venue du radical Clémenceau dans le cabinet, préférant l'avoir avec lui que contre lui. Clémenceau, autre habitué de Madame Armand de Caillavé, est nommé ministre de l'Intérieur et devient très impopulaire chez les socialistes en tant que briseur de grève. Gassier signe alors une affiche désignant Briand comme le jaune. De 1906 à 1913, Briand est constamment au gouvernement, De l'instruction publique, il passe à la justice en janvier 1908. Dans le gouvernement Clémenceau, il tente alors d'obtenir l'abolition de la peine de mort, puis devient président du Conseil avec le portefeuille de l'Intérieur en juillet 1909. Il conserve cette fonction jusqu'en mars 1913, à l'exception de l'année 1912, où il est de nouveau ministre de la Justice de Raymond Poincaré. Dès novembre 1917, sa situation face au gouvernement Clémenceau est loin d'être excellente, alors que le chef du gouvernement s'attaque aux défaitistes. Que Malvy, ministre de l'Intérieur depuis mars 1914, et Caillaux sont déférés à la justice et que plusieurs espions, ou supposés tels, sont condamnés à mort. Bolo Pacha Matahari. Il est clair que Clémenceau et Briand sont devenus des adversaires durant la Première Guerre mondiale. Clémenceau a dit de lui, d'ailleurs, qu'il était un imbécile. À l'élection présidentielle de janvier 1920, il fait en sorte de bloquer l'élection de Clémenceau, proposant celle de Paul Deschanel. Il convainc ainsi la droite catholique du danger d'élire le vieil anticlérical, tandis que la SFIO n'apprécie guère le premier flic de France. Briand va jusqu'à rencontrer Bonaventura Cerretti, représentant officieux du Vatican à Paris, pour qu'il soutienne Deschanel. Blues my naughty sweetie gives to me, le blues que ma bien-aimée me cause en anglais, est un standard de jazz, blues jazz, Nouvelle-Orléans hot jazz, composé et écrit en 1919 par Charles McCarron, Carey Morgan et Arthur Swanston. Il est enregistré pour la première fois en disque 78 tours en février 1919 par George Beaver. Sa reprise en particulier par Sidney Bechet en fait un des standards de jazz de l'histoire du jazz. Cette chanson de jazz blues, jazz Nouvelle-Orléans, de l'ère du jazz, évoque le blues que ma bien-aimée me cause. Ce standard de jazz est repris avec succès par de nombreux interprètes, dont Louisiana Five en 1919, Esther Walker en 1919 toujours, Glenn Miller, Benny Carter, Bing Crosby, Sidney Bechet et Gunhild Curling.
Le tempo de l'histoire. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Février, proclamation de la République arabe unie. 13 mai, grande manifestation à Alger en faveur de l'Algérie française. Le 1er juin, le général de Gaulle prend le pouvoir et fonde la 5e République, dont la Constitution accorde un fort pouvoir au président de la République. En mai 1958, c'est le lancement du grand bond en avant en Chine par Mao Zedong.
En 1957, la contestation des intellectuels à travers le mouvement des sans-fleurs est encouragée par Mao avant d'être violemment écrasée. Cette volte-face va lui permettre d'imposer sa vision personnelle du socialisme. Conscient du retard industriel de la Chine, Mao lance le grand bond en avant en 1958. Il s'appuie sur les paysans des communes populaires qui sont réorganisés pour produire des milliers de tonnes d'acier au détriment de l'agriculture.
En 1958, il y avait un slogan très connu : dépasser l'Angleterre et rattraper les États-Unis. Mais la véritable intention de Mao était de rattraper l'Union soviétique. Il espérait, par une formidable mobilisation de la population, accomplir en très peu de temps le processus d'industrialisation qu'avaient accompli les Soviétiques en plusieurs décennies et faire de la Chine un pays puissant.
La Chine avait été si pauvre. Ils y croyaient. Nos dirigeants étaient des patriotes. Mais ils ont pris le mauvais chemin. Une utopie irréalisable. Éliminer le secteur privé, éliminer la production familiale, manger dans les cantines collectives, ne pas autoriser les paysans à cultiver leurs lopins de terre, tout cela mis ensemble a eu des conséquences terribles.
Mis sous pression à chaque niveau de la hiérarchie, les cadres locaux mentent sur leur volume de production. Aggravé par la terreur et la violence, le grand bond en avant prend un tour catastrophique et aboutit à l'une des plus grandes famines du siècle. De 20 à 43 millions de morts, selon les sources, entre 1959 et 1961. Un désastre officiellement répertorié comme les trois années de catastrophe naturelle.
Si on cherche les responsabilités de la mort de millions de gens, bien sûr que Mao était responsable en tant que dirigeant du pays. Mais c'est surtout le système, le cumul des pouvoirs. Les travailleurs ne pouvaient pas résoudre les problèmes d'approvisionnement du pays et vivre avec le fruit de leur travail.
En 1961, désavoué par la plupart des vétérans communistes, Mao est obligé de démissionner de son poste de président, tout en restant secrétaire général du parti. Liu Shaoqi le remplace à la tête de l'État, ce que Mao ne lui pardonnera jamais. Fragilisé, Mao Tse-tung accepte le pragmatisme économique d'un de ses anciens compagnons d'armes, Deng Xiaoping, qui n'a d'autre choix que de rétablir la situation économique. Il a malgré tout la confiance de Mao, car il a participé au début du grand bond en avant. Il rétablit la petite propriété individuelle, assouplit la collectivisation de l'agriculture et teste les débuts d'une économie de marché dans quelques villages de la côte. C'est le début d'une lutte sans fin entre la ligne de Mao et celle de Deng Xiaoping. À ce tournant de l'histoire chinoise, le pragmatisme prend clairement le pas sur l'idéologie et l'économie redémarre. Pendant trois années, Mao ne peut qu'accepter la politique libérale de Deng.
Johnny B. Goode est une chanson de Chuck Berry écrite en 1957. Elle atteint le 8e rang du hit parade en 1958. La chanson est considérée comme l'un des morceaux les plus emblématiques du rock and roll. En 2004, le magazine Rolling Stone la consacre 7e plus grande chanson de tous les temps. Elle est la seule chanson de rock and roll du voyageur Golden Record envoyée dans l'espace.
Learned to read or write.
Johnny B. Goode est un des premiers tubes de rock'n'roll à traiter de la célébrité dans le rock'n'roll. Le personnage de la chanson, Johnny, est un garçon de campagne près de la Nouvelle-Orléans, d'origine modeste et faiblement éduqué, mais qui joue de la guitare avec un talent inné. À la force de sa détermination, il est admiré par le public local. Sa mère présage en lui un grand succès, le voyant diriger un groupe qu'une large audience viendra écouter jusqu'au petit matin, son nom illuminé en grand au-devant de la salle de concert. À quelques détails près, la chanson est d'inspiration autobiographique, relatant le parcours glorieux de Chuck Berry. Le Good ferait référence à son adresse de naissance, 2520 Good Avenue à Saint-Louis, dans le Missouri. Le nom, Johnny, viendrait d'un hommage à son pianiste, Johnny Johnson, avec qui Chuck enregistre ses premiers titres et effectue ses premières tournées. Régulièrement, Chuck lui aurait rappelé d'éviter les écarts de conduite après les concerts et de rester bon. Why can't you just be good, Johnny? Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les podcasts de l'émission sur le site de notre radio préférée, Radio Campus Paris.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.